que nous verrons ensemble. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Madame Nicole Turbet-Suétens, qui a eu à la fois des activités d'enseignement supérieur, des activités en entreprise à IBM, des activités dans un cabinet qu'elle a créé, et dans diverses instances européennes et nationales. Elle a aussi, m'a-t-on dit, écrit 4 livres sur le télétravail, le thème sur lequel elle va nous parler.
Madame. D'accord, je vous remercie beaucoup, Président, et je vais attendre que ça s'affiche. Dans la mesure où l'intitulé, c'est donc modalités et enjeux, nous allons commencer par les modalités. Je vais peut-être prendre ça, puisque... Navré, j'avais espéré pouvoir utiliser ma commande à distance, mais malheureusement, il y a eu un petit problème de version sur le PC, donc je vais revenir aux bonnes vieilles méthodes manuelles. Donc, on sait tous qu'on est dans un monde en profond changement, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, et je crois que vous l'avez tous bien évoqué. Moi, je ne vais pas du tout rentrer dans les aspects de l'organisation de l'administration, mais plus de celle du travail des membres de l'organisation. Et dans ce monde qui change, le secteur privé avait un cadre juridique pour pouvoir encadrer le télétravail avec l'accord national interprofessionnel signé en 2005, qui était une transposition en France d'un cadre européen qui avait été signé par les partenaires sociaux et du secteur privé et du secteur public. Malheureusement, dans la transposition qui a été faite en France par les partenaires sociaux, donc ce n'était pas une directive, c'est réellement un accord cadre qui est resté aux mains des partenaires sociaux, les partenaires sociaux du secteur public ne l'avaient pas signé, ce qui fait que le secteur public était en quelque sorte démuni de texte ou de cadre pour pouvoir mettre le télétravail en place, et sachant qu'en plus, il n'y avait pas une motivation démesurée pour faire évoluer les pratiques de travail dans les différentes administrations. Néanmoins, il y avait un guide qui existait, qui avait été écrit par la DGAFP en 98, qui donnait quelques éléments de cadre pour faire un document qui permette à un fonctionnaire de partir en télétravail, mais il y avait de toute manière un socle légal qui était totalement manquant et auquel une réponse a été apportée il n'y a pas bien longtemps, puisque cela date du mois de mars de cette année-ci, par la loi Sauvadet, dans laquelle il y a un article 133 qui introduit le télétravail dans le statut du fonctionnaire. Alors, on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout du travail, dans la mesure où, comme vous voyez par la petite phrase en bas de la slide écrite en rouge, qu'il y a encore un décret en Conseil d'État qui doit être publié pour fixer, après concertation avec les organisations sociales, le détail des modalités de mise en œuvre. Néanmoins, cette loi est particulièrement importante à plusieurs regards. D'une part, parce qu'elle existe déjà et que la DGAFP est en train de préparer le décret en question. Donc théoriquement, d'ici la fin de cette année, le cadre légal devrait être complètement mis en place pour que le télétravail puisse entrer dans le statut du fonctionnaire et donc devenir une organisation du travail assez banalisée pour tout le secteur public qui représente quand même une grande partie de la population active en France. Et chose très particulière et intéressante ici, c'est que cet article de la loi Sauvadet s'appuie sur la définition du télétravail qui est donnée dans une autre loi qui, elle, est entrée en vigueur 10 jours plus tard dans le droit du travail. Donc on voit là quelque chose qui n'est pas très fréquent, je pense, en France, c'est que vous avez une définition, d'abord une même définition pour le secteur public et pour le secteur privé. Et personnellement, je m'en réjouis, d'autant plus que j'ai essayé d'œuvrer dans ce sens-là. Et vous avez cette particularité d'avoir une loi qui va s'appliquer au secteur public, qui fait référence au droit du travail, qui est une chose assez inhabituelle également. Donc, nous avons la définition tout à fait officielle maintenant en France du télétravail, qui distingue bien le travail à domicile de la vieille législation, si je puis dire, que d'aucuns connaissent plus sous la forme du travail à la pièce, avec toute la, j'allais dire, la mauvaise réputation qui va autour, du télétravail, qui est une modalité d'organisation du travail, qui ne peut être mise en place que sur la base du volontariat du salarié ou du fonctionnaire, dorénavant, avec une possibilité de réversibilité, et bien entendu avec l'accord de la hiérarchie. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut s'imposer ni qui se décide unilatéralement. Sachant que, bien entendu, en général, la mise en place du télétravail fait l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux, et je peux vous dire que les consultations avec les partenaires avant la publication de la loi Sauvadet ont pris quelques mois, mais le terrain, en quelque sorte, a été complètement préparé et nettoyé, de manière à ce que le dernier tour de table pour le décret en Conseil d'État ne devrait pas poser de questions, j'allais dire, d'état d'âme très courant en France sur, dès qu'on touche à des modalités assez profondes qui changent la vie quotidienne au travail. Donc on se retrouve là en quelque sorte devant des modalités qui sont maintenant simples, faciles à comprendre et faciles à mettre en œuvre. J'insiste toutefois, puisqu'on est quand même très très lié aux aspects de technologie dans le cadre de ces deux journées, c'est que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication font partie intégrante de la définition du télétravail. Ce n'est pas simplement dire j'ai pas fini un dossier, je l'emporte et je vais travailler chez moi ou je vais travailler dans un autre lieu ou dans un télécentre. C'est réellement exécuter intégralement un travail. Quand je dis intégralement, je ne dis pas tout le temps. Intégralement un travail qui aurait pu être effectué sur le lieu de travail, de le faire ailleurs, et on définit cet ailleurs, grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et en général, cette modalité d'organisation qui introduit une modification par rapport à l'organisation habituelle est formalisée dans le cadre d'un avenant dans le secteur privé, donc un avenant au contrat de travail, et dans le cadre d'un protocole ou d'une convention dans le secteur public. Alors, je passe sur les détails, puisque de toute façon, vous aurez accès à cette présentation qui vous donne la suite du fameux article L1222-9 qui est donc applicable dans la loi Sauvadet. Ça ne fait que définir finalement le télétravailleur lui-même. Et point important, qui montre bien, qui insiste bien sur la notion de volontariat, c'est que le refus de la part d'un agent n'est pas une raison pour pouvoir rompre une relation de travail ou, en quelque sorte, dire à quelqu'un qu'il n'est pas apte à exécuter la mission qui lui a été confiée. Donc on reste bien sur une démarche strictement volontaire pour faire évoluer l'organisation du travail et surtout, dans énormément de cas, et notamment dans les collectivités territoriales, pour éviter des très longs déplacements et donc améliorer les conditions de travail, et ce qui est un réel souci au jour d'aujourd'hui, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, d'essayer d'offrir un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des personnes qui travaillent. Donc, on se retrouve aujourd'hui devant un cadre extrêmement simple en France. On a une loi pour le secteur privé, une loi pour le secteur public. Il nous manque encore le décret en Conseil d'État qui est prévu d'être publié à la fin de l'année. Il existe déjà ou des expériences ou réellement des mises en œuvre au sein de l'administration. Alors j'ai pris l'exemple de quelques ministères et il y a une expérimentation qui est assez emblématique au secrétariat général de l'administration centrale à Bercy, donc des ministères financiers. Vous avez d'autres ministères et récemment il y a le ministère de l'écologie qui s'est ajouté. Les démarches sont beaucoup plus avancées au niveau territorial. Je dirais que c'est eux qui sont le plus en pointe au jour d'aujourd'hui, et notamment dans un certain nombre de conseils généraux. Et je dirais, là, il y a également une logique, parce qu'en fait, vous avez énormément d'agents dans la fonction publique territoriale qui font des déplacements extrêmement longs sur une journée, et que l'organisation du travail traditionnel obligeait de passer au lieu de rattachement avant de partir en mission, et très souvent d'y revenir le soir avant de pouvoir rentrer chez soi. Un très bel exemple est ce qui se passe actuellement dans le Finistère, qui a une expérimentation qui est en marche depuis plus de 2 ans maintenant, et où, en résultat de ce qu'ils ont pu mesurer, ils ont pris conscience qu'il fallait également qu'ils revoient complètement la manière dont la ressource immobilière était utilisée. Ce qui veut dire qu'on a une conséquence quasiment immédiate, qui est de dire, d'une part, les bureaux sont loin d'être occupés continuellement, donc il y a des gains à pouvoir faire, et ça c'est vrai partout dans le monde, dans le privé comme dans le public, mais en plus, pour quelles raisons faut-il venir à tel lieu physiquement, simplement parce que c'est officiellement le lieu de rattachement, alors que à partir du moment où l'on peut se connecter, on pourrait aller dans n'importe quelle ressource immobilière de la collectivité. Donc par exemple, dans le Finistère, ils sont en train de rationaliser complètement leurs ressources immobilières en organisant des bureaux de passage dans les différents immeubles qui sont les leurs ou qui sont de leur ressort, parce qu'à titre d'exemple, il y a même une télétravailleuse qui travaille dans un collège pour être plus près de chez elle les jours où elle télétravaille, parce qu'il n'y avait pas d'autres lieux qui étaient de la responsabilité du département à proximité de chez elle. Ce qui crée en même temps une ouverture de dialogue entre tous les acteurs de la collectivité dans cette réorganisation du travail, avec de la fluidité et une meilleure connaissance des activités des uns des autres. Alors, on a également, à titre d'exemple, pour ce qui est de la formalisation, je ne parle pas de la pratique, aux États-Unis, il y a la fameuse loi Obama qui a été signée en décembre 2010, et si je le montre, c'est parce que j'attends avec une certaine impatience, en quelque sorte, que l'administration française mette sur pied un site qui soit aussi pratique que le site américain. Si moi, je suis l'encadrant d'un fonctionnaire et que je ne connais pas grand-chose au télétravail, je vais sur ce site, je me situe, je suis un encadrant, et j'ai en ligne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mettre en télétravail mes collaborateurs, préparer les documents qu'ils vont devoir signer, avoir les guides qui sont nécessaires pour se préparer, avoir la formation en ligne qui est nécessaire. Donc là, on a encore un bon bout de chemin à faire en France. Mais je pense qu'on a par contre les moyens de le faire, parce qu'il y a énormément de matières existantes. C'est une question maintenant de coordination, de partage, de mutualisation et d'organisation avant tout. Donc, ce qui est également extrêmement intéressant, ce sont les arguments pour lesquels cette loi Obama a vu le jour. Alors, il y en a qui sont tout à fait classiques, qui est de l'optimisation du travail, mais les deux derniers sont nettement moins classiques. Le télétravail, qui est un atout majeur pour promouvoir des méthodes managériales efficaces, réduisant les coûts, l'impact environnemental et les frais de déplacement, ici, en France, on ne l'a pas encore dit aussi clairement. Alors qu'on pourrait, bien entendu, tout à fait le faire, puisqu'on parle énormément de l'empreinte carbone, mais on ne mesure pas grand-chose pour le moment. Et personne n'a encore démontré clairement que le télétravail avait réellement une influence possible sur l'empreinte carbone, et de combien et dans quelles conditions. Et le fait que le télétravail doit permettre de faciliter le recrutement et de retenir des compétences rares est également intéressant au niveau de l'administration centrale. Parce qu'en réalité, on n'est plus lié à devoir être constamment, physiquement, à l'endroit de rattachement. Donc on peut prendre, en quelque sorte, les talents là où ils se trouvent pour harmoniser et rendre une organisation plus efficace. Et vous avez, par exemple, voilà, le guide du télétravail du gouvernement fédéral qui vous donne absolument toute la marche à suivre lorsque vous voulez introduire le télétravail dans une administration fédérale. Donc je dirais, nous avons tous les éléments ici en France pour faire quelque chose de similaire qui faciliterait réellement la vie des encadrants de l'administration, parce qu'il y a de fortes réticences, comme toujours, sur quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, et sur lequel on est inquiet quant au résultat. On est en France, j'ai tendance à dire toujours, on a une maladie génétique, c'est celle du présentéisme. Et on a toujours l'impression que si on ne voit pas les individus, ben ils font rien, ou on ne sait pas ce qu'ils font, donc il y a des risques. Ben oui, il y a des risques, mais il faut apprendre à les évaluer et à les maîtriser. Et par exemple, vous parliez des organismes sociaux, ils sont, dans ce qui n'est pas l'administration centrale en France, parmi les premiers à faire des expérimentations extrêmement intéressantes. Il y a la CNAV qui a un pilote qui est intéressant. Il y a plusieurs caisses primaires d'assurance maladie qui ont également des expérimentations intéressantes en ce moment. Donc on voit qu'il y a réellement un mouvement dans les organismes sociaux, mais tout simplement parce que du fait même de la dématérialisation que vous soulignez, on se rend compte qu'il n'est plus nécessaire de venir tous les jours faire les trajets et avoir les contraintes d'être physiquement au bureau. Donc, je sais bien qu'on peut avoir tendance à sourire quand on parle de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Il y en a toujours qui sont un peu chagrins, qui vont dire oui, cause toujours, mais c'est surtout pour la productivité. Eh bien, je dirais c'est les deux. Parce que quand vous interrogez, et on a interrogé récemment justement les pilotes de la CNAV, il n'y en a pas un qui veut revenir en arrière. Pas un. Donc ça, en général, c'est un fait quand même assez marquant. C'est que lorsque l'on mène bien ses pilotes, lorsqu'on met correctement cette modification d'organisation en place, en général, tout le monde est gagnant. Et aujourd'hui, on voit les bureaux traditionnels, ben vous les connaissez tous. On sait tous qu'on a tendance à dire qu'il faut aller vers du zéro papier, mais on en est encore très loin, notamment parce que la dématérialisation n'est pas suffisamment avancée. Mais il y a un tout autre aspect dont il faut tenir compte, c'est qu'aujourd'hui, les bureaux reflètent exactement la structure hiérarchique dans laquelle on vit. Alors que, à partir du moment où vous mettez en place du télétravail avec de la dématérialisation, vous n'avez absolument plus besoin de bureaux de ce type-là, mais vous avez besoin d'un autre type d'aménagement de l'espace immobilier, qui sera en général plus réduit, mais où lorsque je suis un télétravailleur et que je viens sur mon lieu de travail, j'ai besoin de pouvoir trouver des espaces qui correspondent à ce que je vais faire. Et qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais peut-être être en réunion, je vais peut-être être en groupe projet, je vais peut-être faire une visio. Je vais peut-être avoir besoin de m'isoler à un certain moment. Donc on est loin des aménagements traditionnels comme on les connaît, avec des couloirs qui font presque un kilomètre de long, avec des portes fermées, avec quelqu'un qui est assis derrière un écran. C'est fini ce temps-là. C'est un monde qui est révolu dans un souci d'efficacité. Donc en réalité, aujourd'hui, les lieux de travail, ils doivent correspondre à toute autre chose. Ils doivent correspondre à des espaces de concentration, des espaces de relations informelles où il y a l'échange, source de créativité et d'innovation, et de convivialité, et de lien social, donc de structure du collectif, d'endroits collaboratifs où l'on peut travailler collaborativement, mais avec les outils technologiques ad hoc, c'est-à-dire des équipements qui sont adaptés à ce qu'on va faire au lieu. Et bien entendu, il y a tout ce qui est formation et apprentissage. Donc on voit là aussi, comme dans ce que vous avez dit précédemment, ce sont les usages qui dominent dorénavant la manière dont on va aménager les bureaux. Et les usages changent profondément avec le télétravail. Donc, en quelques mots, un projet de télétravail, c'est un système complet. Et c'est un système qui comprend un axe extrêmement important, bien entendu, de ressources humaines et de management, mais pas uniquement. C'est un projet d'organisation, c'est un projet dans lequel le droit et la relation sociale jouent un rôle important parce qu'il faut contractualiser l'organisation du travail. Les technologies sont clés de par la définition même. Et pour gérer la distance, il ne faut jamais oublier de former et surtout, il faut communiquer correctement. Donc on voit qu'aujourd'hui, le télétravail est en cohérence avec les nouveaux enjeux de société qui sont bien entendu de diminuer les temps de trajet, d'améliorer les équilibres de vie, de faire évoluer l'adoption et les usages liés aux technologies, d'adapter et de faire progresser les organisations, surtout de faire évoluer les pratiques managériales et souvent aussi de renforcer la marque employeur. Et je dirais, c'est un élément qui est valable aussi bien pour le public que pour le privé, c'est l'attractivité que l'on représente. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous laisse quelques bonnes lectures si vous voulez approfondir, dont notamment le rapport qui avait été fait par le CEGIET qui faisait un bilan exhaustif de ce qui existe en matière de télétravail dans le secteur public et qui a été sorti il y a moins d'un an. Et je vous remercie.
Bon, je vous remercie.